Les travaux parlementaires sont suspendus le temps de la pause estivale. 41 textes auront été votés cette année à l'Assemblée. Dernier en date hier soir, la loi sur les violences sexistes et sexuelles. Trop consensuelle, disent les associations. Nous ferons le point sur ce qu'elle contient.
Le gouvernement espagnol a repris les tractations avec la Catalogne, une première en 7 ans. Et malgré ce signe de détente, leur position reste diamétralement opposée.
Dans cette édition, enfin, rencontre avec des personnes sans abri à Paris. Sous la chaleur caniculaire, les associations à leur côté sont moins de nombreuses pendant l'été. C'est fait. Après le Sénat mardi, l'Assemblée nationale a voté hier soir la loi Schiappa contre les violences sexistes et sexuelles. Un texte de compromis alors qu'Emmanuel Macron avait promis de faire de son quinquennat celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les associations de défense des victimes d'agressions sexuelles dénoncent ce matin une loi inutile, très en deçà des promesses présidentielles, car elle instaure, selon elle, peu de changements, Corinne Audouin.
La principale nouveauté de la loi tient en un chiffre, 30. Les victimes mineures de viol ou d'agression sexuelle pourront désormais porter plainte jusqu'à 30 ans après leur majorité, contre 20 ans actuellement. Cet allongement prend en compte la difficulté à relater ou même parfois à se souvenir de ces faits qui peuvent revenir en boomerang des décennies plus tard. Mais au-delà de cette mesure consensuelle, la loi ne bouleverse pas le code pénal. Malgré la promesse d'Emmanuel Macron, le texte ne fixe pas de seuil d'âge en dessous duquel tout acte sexuel entre un majeur et un mineur serait automatiquement considéré comme un viol. Ce sera toujours au magistrat de décider, selon les circonstances, si la qualification de viol peut être retenue. Seul changement, la loi précise que les juges pourront prendre en compte le jeune âge de la victime, en dessous de 15 ans, comme élément constitutif d'une contrainte, ce qu'il faisait déjà la plupart du temps. Une incitation donc plutôt qu'une obligation. Le gouvernement craignait une censure du Conseil constitutionnel. Les associations, elles, crient à la trahison.
Autre texte par ailleurs adopté définitivement par le Parlement hier, la loi Pénico 2 qui permet notamment de bénéficier d'une formation en apprentissage jusqu'à 30 ans. Et puis la loi Asile et Immigration, après plusieurs mois de controverses, le texte de Gérard Collomb vise notamment à raccourcir l'instruction de la demande d'asile en France. Un texte adopté par 100 voix contre 25 et 11 abstentions. La majorité LREM Modem a voté pour hier, la droite et la gauche contre. Voilà pour la fin de la session extraordinaire à l'Assemblée. Pour cette première année du quinquennat Macron, 41 textes au total y ont été votés. Depuis hier, les députés sont en vacances, depuis hier soir, après avoir fait le premier bilan sur cette année parlementaire avec Clotilde Ravel.
À l'image d'une salle de classe le jour des vacances, les rangs de l'Assemblée étaient bien parsemés hier. Interrogée sur le bilan de cette année, la députée LREM Laetitia Avia se dit fière du travail accompli.
Ça a été une année extrêmement dense. J'en tire un bilan positif, tout en sachant que ce ne sont que les premiers jalons de nos réformes et que nous avons encore beaucoup de choses à faire durant les 4 prochaines années.
Autre bilan du côté de l'opposition, selon la députée LR Annie Genevard, les textes ont été votés dans la précipitation.
Il y a eu une espèce de boulimie de textes. Pour bien légiférer, il faut avoir le temps de pouvoir examiner les textes dans toute leur profondeur, leur application, leur implication. Et là, on ne peut pas dire que les 7 mois que nous venons de vivre ont été satisfaisants.
Pas très satisfaisants, encore moins sur la fin. À l'heure du bilan, difficile de ne pas parler de l'affaire Benalla. Pour l'insoumise Danielle Obono, l'attitude de la majorité n'a pas été à la hauteur.
Ça se termine en confirmant toutes les raisons pour lesquelles il faut continuer à se battre et à se mobiliser contre ce gouvernement, dans la rue, dans les urnes et dans les institutions.
La période estivale sera l'occasion pour les députés de passer du temps dans leur circonscription, du temps pour évoquer avec les Français les mesures qui ont fait débat, comme la limitation de la vitesse à 80 km/h ou encore la baisse des aides au logement. Tout cela avant la rentrée qui aura lieu pour les députés le 12 septembre.
Et ce jour-là, retour donc aux affaires avec pour commencer l'examen du projet de loi agriculture et alimentation début septembre. En revanche, il pourrait y avoir une grande absente, la réforme institutionnelle reportée il y a une semaine à cause de l'affaire Benalla. Richard Ferrand, chef de file de la majorité à l'Assemblée, a confié hier soir au journal Le Monde qu'il envisageait d'abandonner la révision constitutionnelle pour se contenter peut-être d'une simple loi de réforme des institutions.
Vous écoutez France Culture, il est 7h. 17h05, troisième journée fébrile pour le Zimbabwe qui attend toujours les résultats de la présidentielle.
On ne connaît pour le moment que ceux des législatives. Les scrutins avaient tous lieu lundi. Au Parlement donc, le parti historique au pouvoir, la ZANU-PF, rafle la majorité absolue. Pas de poste, en tout cas toujours pas de nom sur le futur président, le chef d'État sortant Emmerson Mnangagwa ou le leader de l'opposition. Opposition qui manifestait hier et qui dénonçait des élections truquées. Au moins 3 personnes sont mortes face aux forces de l'ordre. Ce ne serait plus 10 mais 25% de taxes supplémentaires sur les produits chinois importés aux États-Unis. Washington y réfléchit et menace donc encore Pékin, évoquant des pratiques commerciales déloyales de la part de la Chine. Cela faisait 7 ans qu'une commission bilatérale entre l'État espagnol et les représentants catalans n'avait pas eu lieu. C'est désormais chose faite depuis hier. Preuve de l'adoucissement des relations entre l'exécutif et les indépendantistes. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a donc rencontré le président catalan, Quim Torra, 10 mois après le référendum catalan et le début de la crise. Comme un air de déjà-vu, Marie-Hélène Ballestero.
La dernière commission bilatérale entre le gouvernement central espagnol et la Catalogne remonte à juillet 2011. À l'époque, le socialiste Zapatero était au palais de la Moncloa. 4 mois plus tard, le Parti populaire de Mariano Rajoy remportait les élections générales. 7 ans plus tard, les socialistes sont à nouveau au pouvoir en Espagne. Et le nouveau gouvernement central souhaite que les relations avec la Catalogne redeviennent normales. Et c'est dans ce contexte que se sont retrouvées hier les 2 délégations au siège du gouvernement catalan à Barcelone. La réunion a duré près de 4 heures avec un bilan mitigé. Certes, le dialogue a repris entre la Catalogne et le gouvernement central et c'est déjà un grand pas, mais les 2 délégations ne sont parvenues à aucun accord matériel hier car leurs positions restent opposées pour l'instant. Du côté du gouvernement espagnol, on a voulu aborder plusieurs questions importantes. Le transfert des compétences vers la Catalogne, bloqué ces dernières années, le financement et les investissements publics dans les infrastructures. Mais les délégués catalans souhaitaient, eux, parler et avancer sur des sujets récurrents qui les tiennent à cœur. L'organisation d'un référendum d'autodétermination et la libération des dirigeants indépendantistes catalans en détention provisoire. 2 questions que le gouvernement de Sánchez ne compte pas aborder car elles relèvent du domaine de la justice. Autant dire que les 2 délégations n'ont pas beaucoup avancé pour le moment, mais elles ont fixé un calendrier des négociations qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année.
Le trafic s'arrange sur les rails dans l'ouest de la France. La SNCF prévoit d'assurer aujourd'hui 4 trains sur 5 au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris. Sur les routes, en revanche, Bison Futé prédit l'un des pires samedis de l'été, noir dans les 2 sens, dans 2 jours. Du monde et de la chaleur, l'est et le sud du pays sont sous vigilance. Canicule, nous y reviendrons dans 2 minutes. Avant cela, reportage dans les rues parisiennes aux côtés du Secours catholique qui effectue des maraudes et distribue des boissons tous les soirs aux personnes sans domicile fixe. Elia Bergel y était hier soir.
Le même rituel a lieu tous les soirs avenue Victoria à Paris. Dès 20h, des bénévoles du Secours catholique installent un stand, thé, café, eau. Immédiatement, des dizaines de sans-abri viennent s'y désaltérer.
Un café, une demi-cuillère de lait et 2 sucres.
Un café.
Et 2 sucres.
2 sucres.
Et merci madame.
Une boisson chaude pour lutter contre les températures élevées. Et pourtant, rien de surprenant pour Thierry qui boit justement son café au lait.
Pour atténuer cette chaleur, il faut prendre de la chaleur. Dans le désert, ils boivent que du thé chaud. Hein. Ils vont pas boire du thé froid, parce que ça va donner encore plus soif.
Et pour s'hydrater et boire régulièrement, il faut une bonne dose de discipline et d'organisation.
Même si on n'a pas soif, il faut se forcer à boire. Psychologiquement, tu peux refouler l'envie et après tu te déshydrates. À Paris, il y a des fontaines, j'ai des repères. À Bastille, il y a la fontaine. Ici, les jardins. L'eau, elle est glacée, elle est délicieuse.
Mais l'accès à l'eau n'est pas la seule difficulté à laquelle les sans-abri font face. Car l'été, les associations sont moins présentes sur le terrain, explique Solène du Secours catholique.
Il y a beaucoup d'associations qui ferment. L'aide alimentaire disparaît un peu du paysage. Aussi, je dirais, le lien social. Ce sont des personnes qui ont commencé parfois à avoir leur habitude avec certains bénévoles de certaines associations ou même des travailleurs sociaux qui partent en vacances.
Des bénévoles ont recensé les centres d'hébergement fonctionnels dans Paris l'été. Au mois de juillet, par exemple, il ne restait que 12 structures ouvertes sur les 39 recensées par les associations.
Voilà, la La chaleur à Paris en France et toujours au nord de l'Europe, en Californie, au Canada, au Japon en ce moment. Climat, l'économie brûlera-t-elle? Question posée dans les matins d'été sur France Culture par l'économiste, à l'économiste de l'OCDE, Elisa Lanzi. C'est à partir de 7h40 tout à l'heure. La météo comme promis à présent, la canicule s'étend et va gagner presque tout le pays d'ici demain. Ce matin, plus d'un tiers des départements sont sous vigilance canicule, de la Moselle aux Alpes-Maritimes, puis de la Gironde à la Méditerranée en passant par le Lot et Garonne. Ce matin, ils font compter 23 degrés à Rennes, 25 à Lille, 26 à Paris, déjà 28 à Bordeaux, Strasbourg, 33 à Marseille.